Bonsoir, merci de votre présence. Je m'appelle Cédric Mal, je suis le fondateur et directeur de la publication du blog documentaire, un site d'actualité et d'analyse sur les cinémas documentaires et les web documentaires, sur lequel vous pouvez retrouver assez facilement un entretien avec Grégory, qui est l'un des réalisateurs du film. Je suis d'autant plus heureux de vous accompagner pendant 1 heure ce soir, parce que je suis le travail de Grégory et de Magda depuis ce film, qui est leur premier, qui est leur premier réalisé à Cuba. Ils en ont fait un autre ensuite sur le reggaeton, qui est une musique en vogue parmi la jeunesse cubaine. Et donc ils en font un, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici ce soir, sur la communauté homosexuelle cubaine qu'on voit un peu d'ailleurs dans ce film-là. Je suis d'autant plus heureux que moi-même, c'est rigolo, mais mes premières émotions documentaires, mon premier film documentaire, je l'ai fait à La Havane. Et cette ville et ce pays est indéniablement un imaginaire des villes, est indéniablement une source d'inspiration pour des artistes cubains ou de n'importe quelle nationalité finalement. Enfin, La Havane, on pense à Zoé Valdez, on pense à Leonardo Padura pour la littérature, on pense au cinéma, on pense à Fernando Pérez qui, de mon point de vue, a signé un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Sweet Habana, qui est un documentaire construit avec les moyens de la fiction, invisible en France malheureusement. Mais on pense à Fraisa y Chocolaté de Tomás Gutiérrez Alea. On pense aussi inévitablement à Kubasi de Chris Marker. On pense à Édouard Nobanais aussi. Et la première question que je serais tenté de poser à Mickaël, donc producteur du film, c'est un film de jeunes auteurs, de très jeunes auteurs. Donc c'est un premier pari à faire en tant que producteur. Et c'est un film de très jeunes auteurs qui vont ou qui veulent aller tourner à Cuba et à La Havane, ce qui est d'autant plus périlleux pour un producteur. Pourquoi? Comment vous avez été convaincu par ce projet? Comment vous avez réussi à l'accompagner? Parce que tourner à La Havane, c'est pas tourner à Paris, quoi.
Bonsoir. Alors, le pourquoi de ce projet, effectivement, finalement, je pense que comme un peu n'importe quel projet, et sans même se poser la question d'un jeune auteur ou d'un auteur plus expérimenté, c'est finalement aussi la question du coup de cœur par rapport à un projet, finalement. Donc, quand je parle de coup de cœur, bien évidemment, en tant que producteur, on a cette nécessité aussi de se poser la question de, bien évidemment, la question économique qui fait partie forcément de notre travail. Mais également la question artistique, forcément. Si nous, on n'a pas une première accroche, en tout cas vis-à-vis du sujet, forcément, on ne part pas. Dans ce cas précis, effectivement, il y avait une vision qui nous intéressait, notamment par rapport à un sujet que nous, on n'avait jamais traité. Donc la question de la jeunesse, finalement, par rapport au fait de partir à l'étranger, c'est quelque chose qu'on ne se posait pas forcément, parce qu'on l'avait déjà vécu dans d'autres secteurs. Ça nous était déjà arrivé d'aller à l'étranger, et notamment dans des pays quelque peu périlleux, pour de la fiction. Donc là, finalement, avoir une approche documentaire sur un pays de ce type-là me paraissait d'autant plus intéressante, car pour moi, c'est vraiment une volonté également d'aller à la découverte de culture, et tout simplement d'essayer de comprendre la vision de ces auteurs-là et de la vivre par moi-même finalement au cours de la production était tout aussi intéressante. Donc pour ensuite continuer sur un peu comment on les a accompagnés, je pense que là c'est effectivement quelque chose de particulier car Cuba a forcément un mode de fonctionnement très particulier dans le sens où on ne peut se faire de choses là-bas sans travailler avec le gouvernement. Je pense que là par contre c'est compliqué. Nous avons pu observer d'autres équipes qui ont voulu contourner. Ça semblait compliqué. Eux avaient déjà fait un grand travail de repérage. C'est vrai que je crois que sans leur travail à eux et le travail que eux avaient commis en amont, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc eux étaient déjà rentrés en contact avec beaucoup de gens, notamment des pôles de journalisme tout simplement qui sont en place et donc du coup parfaitement institutionnels. nous ont déjà permis de commencer à comprendre un peu le fonctionnement. À partir de là, finalement, nous sommes tous un peu rentrés en discussion et c'est effectivement l'ICAI, qui est donc l'Institut du cinéma cubain, qui nous a en gros pris en charge et nous a accueillis sur toute la production à Cuba. Donc après, là, c'est le moment où c'était un peu particulier dans le sens où moi, voilà, je travaillais d'un côté vraiment tout ce qui était partie production, le mode de fonctionnement. Et d'un autre côté, eux étaient en train de plutôt s'occuper d'artistique, de rechercher les bonnes personnalités des professionnels cubains sur place, qui sont nombreux. Il faut savoir tout de même que Cuba est un vrai pays d'audiovisuel. Si je me rappelle bien, c'est la deuxième télé au monde, tout de même. Je crois qu'on l'oublie souvent. Donc voilà, il y a eu déjà une grosse discussion déjà à ce niveau-là, et à partir de là.
Seconde télé du monde, vraiment du monde.
La seconde, alors, c'est bien pour ça que je disais je crois. À ma connaissance, je crois qu'ils ont été les seconds à émettre.
Si, quelque part, c'est pas vrai. De la même façon qu'il y a des choses pas tout à fait. Le monsieur à votre côté parle de Chris Marker, un des monstres, des fondateurs du documentaire.
Bien sûr.
Qui a fait un film qui s'appelle Kouassi. C'était un bon film qui a soutenu les processus révolutionnaires dans les années 60. Et qu'en 1980, il a pris, 80, 90, il a pris le film et il a fait la critique, l'autocritique et la critique du régime. Et cet exemple, parce que vous prenez cet exemple qui pour moi c'est un icône du cinéma. Et ça m'étonne qu'un Européen va à Cuba et parle de toutes ces choses qu'on a vues là et les mots dictature n'est jamais mentionné. Et à Cuba, il y a une dictature depuis 50 ans, 54 ans. Il y a un dictateur qui va depuis 54 ans. Il y a des mouvements, pas de faire un film politique, mais de faire un film avec toutes ces belles choses, ces gens qui chantent, ces gens qui se promènent dans la balle. Je ne sais pas ce que vous faites là, monsieur Eduardo Manet, parce que je vous connais, je reste plus pour respect beaucoup. Je ne sais pas qui vous a amené ici aujourd'hui. C'est un exilé politique, comme moi. Nous avons souffert dans ce pays et tous ces gens qui vous montez là en train de chanter. Ce sont des gens qui vont souffrir. Vous arrivez à Cuba et vous restez aux côtés du Malecón. Vous n'avez pas rentré dans les pays.
Mais on va.
Mais je me demande, c'est quoi qu'on filme ça?
Non, non, mais on.
C'est comme quelqu'un qui va à Éthiopie et ne voit pas la femme en Éthiopie. La femme qui vient meurt de faim.
Oui, mais les auteurs de ce film. On entend bien ce que le cri. Enfin, ce que vous expliquez.
Sous-messier, vous êtes des auteurs.
Non, je ne suis pas auteur du film. Ouais. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je ne suis.
Vous excusez pas.
Non, mais je ne suis pas.
Assumez la gaffe intellectuelle européenne, colonialiste.
Non, mais européen. Alors, on va redescendre un petit peu, calmement.
Redescendre à moi, monsieur.
Non, mais.
Monsieur, s'il vous plaît, n'en est pas.
Attendez, attendez.
Qu'on puisse continuer la discussion. C'est pas le propos, c'est pas un film politique, effectivement. Donc là, j'aimerais bien que les personnalités invitées continuent de parler. Merci.
Ouais, j'aimerais dire deux, trois mots par rapport à ça. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas rentrer dans le discours politique parce que je vais être franc avec vous. Je sais que nous, au niveau de la production, c'était quelque chose qu'on s'était posé cette question. On avait envie d'en parler. Maintenant, il est vrai que les auteurs avaient envie de montrer autre chose, la vision humaniste de gens qui, finalement, dans un monde très dur, et je ne le cache pas, on peut utiliser le mot de dictature. Et je connais d'autres exilés qui ont travaillé, par exemple, avec nous en tant que musicienne. Malheureusement, je vais vous avouer que voilà, j'ai produit quand même pas mal de films, je sors d'un tournage, donc là malheureusement je cherche le nom, je ne le trouve pas, et je vous promets que si vous me posez la question à un autre moment ou qu'on recherche, et je vous invite à nous recontacter, je vous donnerai le nom de cette personne, et c'est quelqu'un qui a une longue histoire. Noumidia Vaillant, voilà, ça me revient maintenant. Noumidia Vaillant, pianiste qui est exilé depuis aujourd'hui 45 ans, donc effectivement ça lui a fait bizarre aussi quand je lui ai parlé de ce documentaire et que je lui ai dit voilà j'ai fait ça. Moi, finalement, ma question dans ce genre de choses, c'est est-ce que je dois contrôler aussi tout ce que veulent faire les réals? Est-ce que je dois avoir un engagement par rapport aux propos? Moi, ce qui m'a intéressé également dans leur vision, c'était cette réponse humaniste, finalement. Maintenant, est-ce qu'on doit absolument dire les choses? Je vais être franc avec vous, ce documentaire, si j'avais voulu aller aussi frontalement face à cette problématique, je n'aurais jamais pu le faire. Par contre, aujourd'hui, j'ai ramené des images. Je pense que Vous avez votre point de vue, et finalement, le point de vue que vous avez dessus, c'est peut-être finalement celui aussi que l'on a voulu créer, dans le sens où si on tombait dans les écueils de parler directement de cela, est-ce qu'on aurait pu faire ces images ? Non. La réponse est simple. Est-ce que finalement, aujourd'hui, avoir ramené ces images veut dire que tout est beau ? Je ne suis pas forcément convaincu non plus. Et c'est là où il faut, pour moi, accepter aussi la vision des auteurs. Eux ont apprécié quelque chose, ils ont voulu montrer une chose. Est-ce que tout est parfait ? Je crois que peu importe le lieu, il y a des mauvaises réponses à trouver partout.
Mais alors, on va confronter les points de vue. On va demander à Eduardo, donc Eduardo qui est en France depuis 1968, qui a réalisé une dizaine de films à Cuba, qui a écrit une quinzaine de livres en France, en français. Eduardo, qu'avez-vous pensé de ce film ?
J'ai vu le film la première fois chez moi et j'ai eu un petit peu votre réaction en me disant, premièrement, je l'avais dit, et ce qui me choque, c'est le fait qu'il y a une dissidence à Cuba, que les touristes qui vont, les amis qui vont reviennent en disant, mais partout on dit des horreurs, on se moque des fidèles, etc. Et par contre, là, c'est comme si la politique était disparue tout d'un coup du système universel. Mais en regardant ici, j'étais très touché, peut-être parce que l'image est plus grande et parce que j'ai déjà avait eu une première réaction négative. J'ai été extrêmement touché parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une vision assez sereine et authentique de la réalité. De la réalité. Et pour moi, c'était presque les larmes aux yeux, précisément, parce que le Malecón, pour moi, c'était aussi important. Mais quand je vois cette dame qui vend du mani, et qu'on la voit dans la... Quand on voit, j'étais à Cuba au moment où on devait lutter. J'étais directeur du Théâtre National Cubain et avec d'autres directeurs de théâtre. À 7h du soir, si les acteurs qui devaient jouer le soir n'étaient pas là, on devait courir dans tous les commissariats de Cuba pour sortir les comédiens qui étaient en prison, ou quand les en prison, c'était les terribles moments de l'UMAP. Et qui avait créé l'UMAP ? Raúl Castro. L'unité pour aider à l'agriculture. Et ça devenait un goulag. Et nous tous, je parle nous tous de tous les artistes cubains, même Nicolas Guillem, grand chantre du communisme cubain, on s'est opposé et grâce à ça, l'UMAP a disparu. Et tout d'un coup, il y a la fille de Fidel qui est la déesse, la grande princesse des homosexuels cubains. Et tout d'un coup aussi, je me rappelle des souvenirs de mes rencontres avec Che Guevara, que j'ai rencontré, et de son obsession de l'homme nouveau. Si Che Guevara voit ces Cubains-là, deux choses l'une, il prend la mitraillette, il tue tout le monde, ou il se jette, lui, à la mer. C'était ça, le Che Guevara. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a plus de compréhension pour le problème des sexuels, d'une certaine manière, à Cuba qu'en France, dont on est en train de vivre des moments épouvantables avec cette droite fasciste, cette droite d'assiste qui est extrêmement dangereuse. Donc pour moi, c'est un film, premièrement, qui montre, il y a des clichés que je ne supporte pas, comme vous, si vous êtes cubain. Je ne supporte pas les faits qu'on me dise que tous les Cubains sont gays, tous les Cubains aiment la musique, tous les Cubains... Et vous avez vu les visages d'une tristesse profonde des jeunes, des vieux et des enfants. Une tristesse profonde parce que la vie est très dure. Et ils n'ont pas cessé de nous dire la vie est très dure, mais on lutte. Et ça fait partie aussi, c'est vrai, de la population cubaine. C'est vrai. Et quand on me dit, après les Castro, à un moment donné, tout va changer. À un moment donné, à nouveau, il y aura à la mort des fidèles qui ne veut pas mourir. On le sait tous, il ne veut pas mourir. À la disparition aussi de Raoul, le changement se produira. Se produira. Qu'est-ce qui va se passer après? On me dit, ah, ça va être le bordel de l'Amérique. Parce que non, non, parce qu'on voit ces gens-là. Et ce sera un peuple, simplement, qui vivra d'une autre manière. Et le dernier mot le personnage qui a dit, il y aura le socialisme, le capitalisme, moi je reste le même. Ça a un sens profond, même du point de vue philosophique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'un homme et un être humain, vous pouvez être dans l'enfer, vous pouvez être paradis, si vous ne restez pas vous-même, ce que vous faites, c'est pour vous, ce serait une catastrophe, ce serait une négation de votre aspect. Donc je trouve, à cette deuxième vision du film, que c'est un film qui apporte des images qui sont là, et qu'on voit, et que tout de même, ce qu'on ressent, ce que je crois qu'on peut ressentir, c'est bon, c'est une situation à part les problèmes, évidemment, dès qu'il y a encore l'impossibilité de s'exprimer complètement. C'est pour cela qu'ils le font, d'ailleurs, ils ne s'expriment pas parce qu'ils vont passer après à l'étranger, ils ne peuvent pas se permettre, eux qui habitent là-bas, de dire « Abajo Castro, muera Raoul !» Ils ne peuvent pas. Mais d'une certaine manière, ils l'ont dit, d'une certaine manière. Je crois qu'il y a à Cuba, et quand je fréquente les Cubains qui vont et viennent, ou mes amis écrivains qui sont là-bas et que je rencontre à l'extérieur, je crois qu'il y a un double langage dans la population cubaine, comme dans toutes les populations qui ont un problème. C'est le même double langage qui peut exister dans les pays islamiques, c'est le double langage qui peut exister dans un pays où la possibilité de parler ouvertement est impossible. Ce double langage se manifeste, il est là, il est présent, et vous pouvez, chacun de vous, différemment, vous pouvez trouver une vérité différente dans tout ce qui vient de se passer. C'est pour cela que je considère que ce film mérite d'être vu, et que c'est un document, un documentaire qui apporte et qui apportera au futur. Il y a d'autres documentaires, d'autres possibilités, et ça sera quelque chose de très intéressant à voir à un moment donné.
Merci Eduardo. Je suis persuadé qu'il y a des questions dans la salle. Moi j'en ai plein, hein, si vous n'en avez pas. Pas pour l'instant. Il y a quelque chose peut-être, donc tu parlais, il y a évidemment plein d'autres documentaires, récemment Le Rideau de Sucre par exemple, ou récemment Cuba, l'art de l'attente par exemple. Ah, vous êtes Monsieur Lamora.
C'est moi, c'est Monsieur Lamora.
J'ai écrit un très beau texte sur votre film, je ne sais pas si vous savez. Je vous le passerai si vous ne l'avez pas lu, le texte que j'ai écrit sur votre livre, sur votre film. Oui, Eduardo, il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous avez connu à 18-20 ans Raoul Castro, vous le fréquentiez à l'université, et d'autres, Alfredo Guevara par exemple. Avec Raoul Castro, il commence à se passer quelque chose, et peut-être que le plus significatif pour vous en tout cas, c'est la visibilité de vos films et de vos écrits à Cuba, qui jusqu'à présent n'était pas possible de les voir là-bas. Racontez-nous ce qu'il se joue aujourd'hui pour la visibilité.
Non, j'ai toujours dit, quand on m'avait appelé à la télévision pour dire « Raoul Castro n'a pas le charisme de Fidel », ça on le sait, et il n'aura pas la possibilité d'y rester, etc. C'est une naïveté absolue, parce que aucun gouvernement qui a les contrôles de l'armée et de la police, aucun homme fort ou dictateur ou tyran, n'importe quel nom on puisse le donner, a besoin d'être charismatique. Franco n'était pas charismatique, Trujillo n'était pas charismatique, donc ce n'est pas la force. Par contre, ce qu'il y a, parce que je l'ai connu vraiment assez bien, c'est que, contrairement à Raoul, à Fidel, premièrement, c'est le petit chinito, le petit, il n'est pas comme son grand frère, et il n'a pas cette carrure ni le charisme, il faut dire la vérité, mais c'est un homme qui a un sens très, très, très précis de la réalité. Et en plus, qu'il a une police politique qui sait tout sur tout le monde d'ailleurs. Connaît tout le monde, tout ce qui se passe. Et je crois qu'il s'est rendu compte de que tout de même, en Afrique du Nord, il y a ce qu'on appelle les printemps, les révolutions du printemps. Non sur la, et que ça n'a rien à voir, Cuba, avec l'Afrique du Nord. La première chose qu'il faut le dire, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, donc il faut essayer d'ouvrir certains points, d'ouvrir certaines possibilités pour éviter qu'il y ait à Cuba une révolution comme, ou qu'il se manifeste comme actuellement en Turquie. Je crois que c'est sa préoccupation. Deuxièmement, je crois qu'il est sûr qu'après la mort de Fidel et après sa mort à lui, personne ne peut éviter les changements à Cuba. Personne. Personne, parce que l'Amérique est toute proche et parce que les Cubains, tout de même, ça fait 50 ans, bien plus, d'un gouvernement qui ne les permet pas de se manifester tout à fait intégralement comme ils le voulaient. Ce qu'il est en train de faire, c'est quelques pas pour aussi pour une autre question. J'ai toujours dit, j'ai toujours été contre l'embargo américain à Cuba. J'ai toujours dit que c'est politiquement les Cubains qui soutiennent l'embargo, premièrement, ont une vision politique de la situation extrêmement, extrêmement négative. Parce que, premièrement, pour le peuple cubain, tel qu'on le voit dans les films, mais tel qu'il est, tout ce qu'il y a mal, c'est l'embargo. Pour Fidel Castro, pendant 50 ans, il a dit tout ce qui va mal, là, l'embargo. Mais qu'est-ce que c'est l'embargo? Premièrement, je me rends furieux quand j'entends, comme dans les films d'ailleurs, blocus et embargo. Il faut savoir, le blocus, c'est un mot néerlandais, blockhaus, qui devait dire c'est les lieux fermés ou la fermeture complète d'un port total. C'est arrivé en 1962 quand Kennedy a dit à Nikita Khrushchev, si les bateaux continuent d'avancer vers Cuba avec la bombe atomique et les possibilités qu'il avait, ça sera la guerre. Et il a fait un blocus. Et les Russes sont venus jusqu'à là et ils sont retournés de l'autre côté. Ça, c'était l'embargo. Et les blocus. L'embargo, qui vient d'un mot espagnol, embargo, tout simplement, c'est éviter qu'il y ait de commerce avec un pays déterminé, etc. Mais je vais vous dire des choses aussi qui sont, d'un point de vue historique, très précis. L'embargo, malheureusement, n'est pas tellement imposé par les Américains, comme on dit, mais par les Cubains. Par les Cubains de Miami, certains Cubains de Miami, et par il y a des Cubains qui sont sénateurs de la République et même sénateurs de la République qui sont de la famille de Castro, qui était le neveu de la femme, la première femme de Fidel Castro. Et il y a eu deux présidents qui ont essayé de lever l'embargo, Jimmy Carter et Clinton. Et permettez-moi de vous dire c'est quelque chose parce que c'était authentique. J'étais en Espagne, j'étais à Madrid, j'étais avec Felipe González. On parlait des questions artistiques et d'une revue qu'on avait, etc. Et tout d'un coup, Felipe González, la secrétaire, vient lui dire problème quelque chose. Et ça me va, mais un coup de téléphone très important. Une demi-heure plus tard, revient tout rouge pour dire Clinton m'a parlé que je fasse l'intermédiaire avec Castro pour qu'il s'y fasse lui un geste et je lève l'embargo. Malheureusement, à ce moment, il a eu un problème de petit avion qui partait de Miami, qui jetait des papiers à Havane, et on a tiré, Cuba a tiré, effectivement, il est impossible de penser à l'embargo qu'on pouvait lever. Mais, et ça, on le voit dans les actualités, Jimmy Carter a été à Cuba, devant Fidel Castro, il a dit, il était Jimmy Carter contre l'embargo, il dit, mais il ne faut pas oublier que Cuba commerce avec 153 pays, inclus Israël, donc qu'est-ce que c'est comme embargo? C'est simplement le fait que, par contre, les Américains sont les seuls qui ne peuvent pas aller, mais qu'ils vont tout le temps. Même Beyoncé avec son mari ont été à Cuba, et tout le monde va à Cuba à ce moment. La levée d'embargo, c'est aussi quelque chose de symptomatique dans le fait que quand Obama a été élu la première fois, Raúl Castro lui avait envoyé un mot en disant « Il est temps de lever l'embargo. Vous, un président démocratique, il n'a pas dit un président noir, mais un président démocratique. » Et Obama a répondu « Je leverai l'embargo quand vous leverez le vôtre. » Quel était l'embargo de Cuba et de Raúl Castro? Le visa. C'est-à-dire que moi, avec un passeport français, ou un autre Cubain, un ami avec un passeport suédois, du moment il devait, pour retourner à Cuba, il fallait acheter un passeport cubain qu'on les vendait, parce que c'était très cher. Mais après venait le problème du visa. Et si vous n'avez pas les visas, vous ne rentrez pas. Mon camarade, sa maman était malade. Il est allé à Cuba, croyant que parce qu'il avait un passeport soudain. Non, on l'a renvoyé dans le même avion. Moi, je pensais aller à un moment donné pour revisiter tranquillement. Et je savais que je ne pouvais pas, parce que l'ambassade ne me donnerait pas les célèbres visas. On a enlevé. Au moment où Obama s'est présenté pour la deuxième fois, souvenez-vous, à une semaine avant, on ne savait pas s'il allait être élu ou non. Et Raúl Castro a levé les célèbres visas. C'est un signe. Et pourquoi il veut qu'on lève l'embargo? Vraiment, ça, parce qu'il rêve, et il l'a dit publiquement, il a dit à travers la télévision, il rêve. La levée de l'embargo permettrait 1 million ou 2 millions d'Américains à Cuba de tourisme. Est-ce que, de toute manière, je crois et pense profondément, de toute manière, un jour, les changements se feront, comme ils sont en train de le dire, il y a des changements. Les changements se feront, mais de toute manière, je ne crois pas que le peuple cubain va devenir les bordels de l'Amérique, parce que de toute manière, il est déjà un peu les bordels des Italiens, des Français, des Espagnols, etc., malheureusement. Mais qu'en même temps, il y a une résistance, il y a une puissance. Et je crois qu'il faut faire confiance surtout à la jeunesse cubaine, à la jeunesse cubaine de Cuba et à la jeunesse cubaine des États-Unis. Parce que les jeunes Cubains en ont marre de papa et de maman qui sont encore anticastristes, et ils vont et ils viennent. Et à la chute ou à la mort de Fidel et à la mort de Raúl ou un passage vers la démocratie telle qu'on peut la considérer comme la démocratie qui existe ici en France, à ce moment-là, il ne se passe rien. Il se passe que les uns vont embrasser les autres. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Franco, que les Espagnols me disaient, on va, les communistes, on va arracher. Ne s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça se passera simplement dès qu'ils se rencontreront. Ils se rencontrent déjà. Et qu'il y a. Cela dit, ce qui est terrible et triste, c'est de voir la situation épouvantable dans laquelle il vit. Mais si nous pensons aussi à l'épouvantable situation de Grecs, il faut se poser peut-être, commencer à se des problèmes, à se poser vraiment la question de qu'est-ce que c'est le capitalisme sauvage et comment réussir que le peuple arrive à vivre le peuple du monde entier comme il devrait faire. Même en Chine, commence à avoir déjà des problèmes entre les très, très riches et les très, très pauvres. Il n'y a pas encore personne n'a donné une solution complète à ce problème de l'économie et comment réussir à que tout le monde puisse avoir une vie simple et dormir et vivre et manger comme il faut, c'est tout.
Et Eduardo, c'est passionnant ce que vous, mais vous n'avez toujours pas parlé de vos films. Racontez-nous le destin de vos films tournés à Cuba.
Je voulais dire aux camarades, il y a des changements. Dans le sens suivant, mes films étaient interdits, bien entendu. Mais là, j'avais fait un dernier film que j'aimais beaucoup, qui n'avait jamais, le respect, qui n'avait jamais été présenté, oui.
Vous dites vos films interdits, bien entendu. Mais pourquoi interdits, bien entendu ?
Non.
Pourquoi bien entendu ?
Non, el respect. J'avais fait 3 films à Cuba qui étaient présentés, mais el respect n'a pas été présenté, présenté dans un cinéma, c'est-à-dire c'était l'interdiction, c'est-à-dire ne pas être présenté. Il n'avait pas une interdiction, simplement il n'était pas présenté dans le cinéma. Et après, on m'avait dit qu'il avait disparu, qu'il avait brûlé parce qu'il a eu un feu, qu'il avait brûlé la. Comment ça s'appelle la, voilà. Et tout d'un coup, je reçois un mail de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et qui c'est un monsieur qui s'appelle Luciano Castillo, et qui est le chef de la. médiathèque de la télévision, qui me dit qu'il avait retrouvé le copie de Wesper, qu'il a fait des DVD et qu'il a un programme de télévision et qu'il va les passer au mois d'octobre à la télévision cubaine, de manière que les jeunes cubains puissent voir ces films et reconnaître. Mais en même temps, à travers de l'email, que sait-on jamais, moi, j'ai aucun problème, mais lui, il peut avoir des problèmes. Comment elle parlait de. Comment Alfredo Guevara avait détruit le cinéma cubain, avait détruit les bagarres entre de Néstor Almendro et Alfredo Guevara, les bagarres entre Tomás Gutiérrez Alé et Alfredo Guevara, mais comment Tomás avait réussi à avoir une. Et Almendro aussi, qui avait quitté le pays. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et que c'est cette possibilité de, que à la télévision cubaine puisse, non pas simplement mon film, Alfredo Guevara avait interdit carrément un film qui s'appelait Guantanamo, de Masip. Il va le passer. Un autre, un très bon cinéaste qui est mort dans l'exil, avec une grande tristesse, Fandinho, qui avait fait des films très beaux, il va les passer à la télévision. C'est déjà des petits points qui ne sont pas tout ce que nous voudrions, mais tout de même, il faut dire la vérité, ce qui existe.
Avez-vous des questions? Je me retourne vers.
J'avais été présenté un livre à. Dans des écoles en France, l'année dernière, plusieurs petits. Et il y avait, je devais rencontrer une école de jeunes, de 12 ans, 13 ans, etc., qui présentait mon livre. Et les profs avaient travaillé avec eux pour me poser des questions. Et le jeune avait posé des questions, mais à un moment donné, ils avaient été très vite qu'ils n'avaient pas du tout des questions à me faire. Il y avait le grand silence, le prof était tout à fait mal à l'aise et il essayait de faire. Alors je me suis levé et je suis dit, si moi pregunta, s'il n'y a pas de questions à me poser, on va faire une chose, on va faire un coup de gymnastique.
Ah d'accord.
Et alors voilà. Et on commence à faire la gymnastique, c'est des mouvements souples, des souplesses. Vous êtes au cinéma, vous êtes au théâtre, vous vous embêtez, faites ça. Et je fais tous les mouvements, et puis les élèves, mouvements. À la fin, il y a deux jeunes filles, des présentes, très jolies, qui sont venues me voir et me dire. Monsieur, quel âge avez-vous? Moi, j'avais mes yeux, c'était comme ça, mais j'ai dit l'âge de votre grand-père.
C'est tout. Donc, si vous n'avez pas les questions à me poser, on va faire. Voulez-vous faire la même.
Merci pour la démonstration. Non, mais peut-être si vous n'avez pas de questions.
Notion de licence, on voit dans le film que pour différents métiers, ils peuvent obtenir des licences. Ça, c'est une marque de changement assez récente, je pense.
Alors, effectivement, en fait, moi, au moment où je suis arrivé, j'ai quand même croisé donc, du coup, les intervenants, j'ai eu le temps de parler avec eux, j'y ai passé quelques semaines. Et il y avait un terme, en fait, moi, qui m'a marqué, en fait, surtout, donc je vais peut-être en faire hurler certains et je m'en excuse d'avance. Ce terme, en tout cas, qui commençait à apparaître et que, en tout cas, même eux me disaient, donc, que ça soit donc, le pêcheur ou les autres personnages que j'ai pu rencontrer. Je suis navré, hein, j'ai un trou de mémoire, j'ai pas vu le film depuis quelques temps. Hein, donc, mais simplement, on parlait du capitosocialisme. Donc, effectivement, les choses, c'est un terme qu'ils utilisaient eux-mêmes, en fait, pour expliquer un peu l'évolution de ce qui se passait autour d'eux. Car avant, finalement, ils n'avaient pas vraiment le droit d'avoir de petits boulots. Et finalement, ces licences qui commençaient à apparaître, moi, je voyais bien que c'était un peu une manière pour eux d'essayer d'améliorer leur quotidien. Et effectivement, il y a comme ça tout un tas de corps de métier qui étaient déjà en réalité pratiqués d'une certaine manière et finalement pas acceptés légalement. Donc quand on parlait finalement de l'ouverture de la télévision, moi, je trouve que c'est un peu la même chose finalement. Le changement arrive petit à petit, par petites étapes. Et finalement, parfois, le changement, c'est simplement accepter quelque chose qui est déjà là. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les licences. On a finalement listé tout un tas de petits corps de métiers, divers et variés, mais en tout cas avec des très précis, mais auxquels on a autorisé, en tout cas, on les a autorisés officiellement à les faire. Et du coup, quand on parlait de la problématique, par exemple, de pouvoir se faire arrêter ou encore d'autres problèmes. Finalement, les licences, c'est un peu une manière tout simplement de permettre à la population et une grande partie finalement de la population d'accéder à une certaine manière à des petits revenus, tout simplement. Donc effectivement, pour moi, on parle de changement effectivement avec les licences.
Par rapport à les licences dans les films, ce n'est pas le seul moment. Et c'est ça qui me préoccupe de ce film. Par rapport aux licences, un des deux homosexuels qui habitent ensemble, il dit que maintenant on peut avoir beaucoup de licences, on peut faire n'importe quoi. Les personnes qui ont fait le film devraient avoir su qu'il y a une liste de 197 métiers à réaliser qu'on peut faire et au-delà de ça on peut pas. Ça veut dire que un film documentaire sérieux doit être rigoureux pour ce type de choses, parce que s'il y a un Cubain là qui dit qu'on peut faire un nombre infini de licences, mais les réalisateurs doivent savoir qu'il y a un nombre exact décidé par l'État des travaux qu'on peut faire. Il y a des travaux qui ne sont pas permis de faire.
Comprend ce point de vue, effectivement. Donc nous, en fait, quand on avait tourné en 2011. Donc est-ce que la liste existait déjà très précisément ou pas ? Eh bien, dans ce cas, moi, j'ai envie de dire que moi, en me mettant à la place des auteurs, je me dis aussi que finalement, et je comprends en plus que ça vous ait marqué ce passage-là, mais finalement, c'était peut-être aussi montrer la joie finalement d'une partie de cette population que certaines choses commençaient à apparaître. Est-ce que eux, ils sont obligés d'avoir un travail de précision absolue ? Et encore une fois, c'est là où je reprends le terme humaniste que j'utilisais tout à l'heure, parce que je sais que j'ai eu cette longue discussion avec eux, notamment par rapport au montage, où nous, on était un peu surpris, parce qu'on a travaillé sur un texte, et je pense que on a plusieurs personnes du coup ici qui ont déjà fait des documentaires, et je pense que vous savez tous ce que c'est qu'on écrit, mais qu'au final, au montage et au tournage, on tombe sur autre chose. Effectivement, le terme n'est pas précis, c'est une erreur si on s'accroche précisément à ce qu'ils disent, mais est-ce que finalement, il n'y a pas d'autre chose à voir ? Parce que ces différentes approches, encore une fois, là, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui apparaissent, Est-ce que simplement la personne elle-même qui le dit ce message, est-ce que l'homosexuel lui le savait? Parce que les listes, je sais que moi, on m'avait commencé à me parler d'un certain nombre de métiers. Moi, par exemple, de mémoire, on m'avait dû m'en parler dans de 70-80. On m'avait pas expliqué les différents. Moi, personnellement, je l'avais pas, cette info-là. Et je pense que... est-ce que le documentaire doit être un travail précis, relatant précisément tous les faits? Ou est-ce qu'on doit constater une réalité, la réalité de certaines personnes que l'on interviewe? C'est, encore une fois, je comprends le point de vue. Est-ce que la réponse, est-ce que je peux apporter une réponse précise? Non.
Alors, bon, moi je voulais poser une question en fait et juste donner mon avis sur... mettre en fait dans les débats. Je comprends un peu les titubances, tout ça, mais de l'autre côté, peut-être dans toute ma naïveté, peut-être parce que moi, je n'étais jamais allée au Cuba et tout ça, des choses que je connais aussi des Cubains, j'ai vécu avec des Cubains qui étaient exilés, donc j'ai des versions, mais voilà, je ne connais pas exactement toute la situation. Mais je pense que la situation politique de Cuba, on la connaît. Pas on la connaît hyper bien, mais on sait, on est informé du fait qu'il y a quelqu'un qui parle justement des dictatures, et il y a aussi, surtout notamment en Europe, des gens qui ne connaissent pas. Bon, désolé, je ne suis pas habituée à parler, mais bon. Et des gens qui défendent plutôt cette tentative politique. Mais au-delà de ça, je dis, moi, quand je me pose face au film, je sais très bien ce qui se passe. Je sais assez bien de toute cette situation, des contraintes politiques qu'il y a, des gens qui vont à... de ce risque, de ce manque de liberté dont vous parlez. Mais en même temps, je constate un certain... je ne sais pas comment exprimer. Par exemple, un scène qui m'a beaucoup marqué, c'était de voir les mecs qui bricolaient avec un briquet et que juste avec cette briquet, il arrivait à... il n'avait pas besoin d'aller acheter un autre. Je sais que c'est très naïf, ma remarque, c'est très, on peut dire, hippie ou tout ça, mais ça pose beaucoup de questions aussi de voir à certaines façons d'enfrenter la réalité et de vivre. Et ça nous questionne aussi face à cette mot dictature que vous employez. Et là, la vraie question que je voulais poser, que c'est, vous parlez beaucoup des changements. Les changements, ça va arriver, les changements, ça arrivera. Alors moi, que je ne suis pas cubaine, je voudrais savoir si vous pouvez être aussi visionnaire de pouvoir me décrire un peu ce changement. Ça veut dire quoi exactement? Je ne sais pas, je pose pas bien la question, je ne suis pas... mais... parce que les changements, c'est quoi? C'est le fait que tout le monde peut avoir un bon lit, pas devoir ramasser les siens. C'est un changement culturel. Parce que quand vous parlez, et après j'arrête, je passe le microphone, ça me donne un peu l'idée que tous les Cubains, ils sont là et n'attendent que les portes soient ouvertes et qu'ils puissent consommer. Au-delà qu'ils puissent s'exprimer, parce que ça, je le comprends. Mais au-delà, ça m'intéresse, c'est pas une question polémique, ça m'intéresse vraiment.
Merci pour... Oui, bien sûr, évidemment.
Bonjour. Moi, je suis née à Cuba. Mon père est cubain, ma mère française. J'ai grandi à Miami. Et j'ai grandi à Miami dans une espèce de peur du communisme, dans une espèce de truc... dans la nostalgie de Cuba, beaucoup. Mes grands-parents m'ont toujours parlé de Cuba, de Cuba, de Cuba. Et à 14 ans, j'ai fait mon premier voyage toute seule. J'y suis allée. J'ai vu... et maintenant, on parle de changement. Enfin, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Eduardo, c'est que maintenant, il y a aussi les enfants des immigrés. Mais en fait, il y a ceux qui ont migré à Miami il y a très très longtemps, qui sont des républicains anticastristes, complètement ouf, et du coup, qui ont élevé leurs enfants dans ce truc-là. Moi, j'ai rencontré des gens de mon âge qui sont d'origine cubaine, mais qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui n'ont jamais... se sont pas vraiment intéressés à ça, qui attendent qu'une chose, c'est justement que cet embargo, d'un côté comme de l'autre, tombe pour pouvoir re-rentrer dans l'île et récupérer leurs biens, parce que dans leur tête, c'est on nous a volé de nos biens, tout a été exproprié, tout a été nationalisé, tout a été... Et puis il y a ceux qui sont partis pendant El Paredón Especial, comme ma famille, dans les années 90, qui ne sont pas du tout... parce que mes grands-parents ont cru à la révolution, donc ils nous ont élevés un peu plus dans un truc comme ça. Moi, je pense que le changement, c'est aussi... dans la nouvelle génération, y a ceux qui vivent à Cuba. Il y a mes cousins, par exemple, avec qui je parle, qui me disent « Oui, nous, on a envie de pouvoir de voyager, de parler, de danser, de ne pas se poser la question de la lucha, le truc, tous les jours, comme on a pu voir dans le film. » Et au même temps, y a ceux qui viennent de Miami, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui aussi sont dans une illusion. Enfin, je sais pas, moi aussi je me pose des questions, parce que moi, ma plus grosse crainte, c'est justement ceux qui sont partis dans les années 60, au tout début de la Révolution, qui ont élevé leurs enfants à Miami, qui ont élevé en fait des anticastristes fervents et qui voient pas autre chose que récupérer leur bien, en fait. Des maisons qui ont été... dans lesquels ça fait quatre générations où il y a des gens qui vivent, ma question, c'est ça, à votre avis. Enfin, c'est juste la même question, en fait.
Mais... Mais c'est... En fait, ce que vous dites nous ramène au titre de ce cycle, Imaginaire des villes, et j'ai envie de... En vous entendant, j'ai envie de vous demander, Eduardo, ça s'arrête où, Cuba ? Ça s'arrête où, Cuba ? Oui, est-ce que Cuba, c'est une île dans les Caraïbes, ou est-ce que Cuba, c'est beaucoup plus grand que ça ? Parce qu'en fait, ce que vous racontez, vous, on a l'impression que Cuba, c'est parce que le mot dépasse de très loin l'île qu'il est censé désigner. Est-ce que c'est une idée, Cuba ? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Moi, j'aime être toujours très concret, parce que je crois que c'est la meilleure manière de se comprendre, avec des exemples précis. La première fois que je suis arrivé en France pour faire mes études, je parlais très mal le français, encore plus mal qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'allais à la poste pour envoyer une lettre à ma maman, à ma famille, tout ça, et il y avait, les postiers étaient d'une férocité incroyable, surtout vis-à-vis des étrangers qui ne parlaient pas très bien la langue. Alors ça a donné ça. Cuba, c'est quoi? C'est en Afrique? Je vous jure sur la tombe de ma mère que c'était comme ça. Voilà. Après venue la révolution, alors c'était le contraire. C'est allé à la poste à Cuba, les barbudos, la révolution, les cigares, etc. Cuba s'est entré dans la planète grâce à la révolution, il faut dire la vérité, grâce aux célèbres photos qu'il y avait eu à Paris Match, les célèbres photos d'une guerrière cubaine avec des sublimes saints, avec la mitraillette et tout cela, c'est le folklore. Ce folklore existe encore. Et beaucoup des Européens vont à Cuba, et beaucoup d'Américains vont à Cuba parce qu'il y a ce folklore d'une révolution qui n'existe que maintenant, que dans les souvenirs, comme disait le vieux monsieur, la révolution, avant on croyait, maintenant on ne croit pas du tout, ou plus du tout. Mais ce qu'il y a de Cuba, c'est la diaspora cubaine, et ce qu'il y a de Cuba... Véritablement, il y a des Cubains, il y a la Cuba des gens qui habitent à Cuba, de l'intérieur, et la Cuba extérieure, la Cuba de tout, qui sont un peu partout et qui font des comme avait dit l'autre, les luchadores. Imaginez-vous un Cubain qui arrive aux Philippines et il voit que tout le monde, enfin les paysans, etc., ont des espadrilles, mais il trouve qu'il peut améliorer. Et il invente une espadrille, surtout que les dames et les jeunes filles appréciaient beaucoup. Il devient millionnaire. Voilà, un cubano luchador, comme disait l'autre. Et ils inventent, ils créent. J'ai un ami très cynique, exilé, qui me dit: Eduardo, nous sommes la génération Merci Fidel, pourquoi? Parce que nous avons quitté Cuba parce qu'il était là. Et grâce à ça, il est allé en Italie, il est allé... Grâce à ça, il y a 2 millions de Cubains qui sont à l'extérieur. Il faut dire ça. Et c'est tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est pour moi, je m'aimerais à pouvoir vivre encore 150 ans comme Mathusalem et en bonne forme, pour voir ce futur et cette possibilité de cette île, que je suis plutôt du côté positif. Je crois que c'est un peuple qui a eu deux guerres d'indépendance, qui a eu deux révolutions, et qui a supporté 50 ans de ce qu'il a supporté, et qui supporte encore. C'est, comme elle dit l'autre, la période spéciale n'a pas fini. Je pense que c'est un peuple qui mérite un jour d'avoir une vie simple, simplement ça. La vie simple qu'on peut avoir avec quelqu'un. Mais que malheureusement, et on a parlé là tout à l'heure, il y a des Cubains qui croient qu'en quittant Cuba, vont vivre meilleur ailleurs. Et quand on arrive ici, pour certains Cubains, ou en Espagne, où j'étais récemment, et il y a un problème qui est un problème actuellement universel. Et je crois que c'est ça qui est important à te poser la question. C'est plus du tout. Plus du tout, je ne crois pas que c'est simplement qu'on puisse parler de Cuba tel quel, mais d'un pays qui est dans l'Amérique latine, cette Amérique latine qui a fait aussi des pas très importants, pas tout à fait tels qu'on le voudrait, mais tout de même, l'Amérique latine, vous savez que, bon, il est mort le fou de Venezuela, mais il n'y a pas un dictateur en Amérique latine. Quand j'étais tout petit et je grandis, il n'y avait que des dictateurs dans toute l'Amérique latine. Le pauvre Bolivar n'était pas mort qu'il y avait un dictateur au Venezuela. Donc, tout d'un coup, il y a des choses qui vont se passer. Il y a ce pays merveilleux qui est le Brésil, qui hier, c'était simplement le carnaval du Brésil, Brésil, mais au Brésil, maintenant, c'est un pays émergent. Les Chinois qui étaient les plus pauvres du monde, les Indiens avec tout cela, le futur appartient maintenant, et c'est ça qui est formidable, à l'Asie des touristes, et demain va appartenir surtout à l'Afrique, et bien mérité, et bien mérité. Et la décadence en Europe, croyez-moi que moi qui vis ici, qui ai accepté la condition d'être français, je vous dis que ça va très 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 mal, et que ça va continuer très très mal encore. Donc, tenez bien à vos possibilités. Si vous avez un homme riche, gardez-le bien. Un travail qui marche, tenez, parce que ça va être de plus en plus dur.
Y a-t-il une dernière question? Non. Alors... Ouais. Alors, pour... Parce qu'il y a, enfin, à certains égards, Cuba nourrit des fantasmes pour ceux qui ne sont pas cubains, ou pour ceux qui ne sont jamais allés, ou pour ceux qui y sont allés et qui se sont arrêtés au Malecón. Le Malecón, donc au centre, le fil rouge de ce film, un endroit névralgique presque à La Havane, symbolique aussi, puisque c'est finalement ce qui fait face aux États-Unis. Eduardo va nous lire un passage de l'un de ses livres qui s'appelle Mes années Cuba, et qui permet de... Eduardo nous disait qu'il fallait être concret pour aborder les choses. Ben, ce passage est très concret.
Mes années Cuba, c'est en fait, je voulais parler de pourquoi j'ai quitté Cuba, voilà. Et aussi comment j'ai vécu très peu Cuba, tout petit, après adolescent, etc. Et en 2008, une amie argentine m'avait proposé de faire un spectacle dans lequel je parlerai de mes années Cuba. Mais me dit, mais pas en one-man show, tu auras les meilleurs pianistes, compositeurs jeunes argentins et la plus belle et la plus jeune chanteuse et danseuse de Buenos Aires. J'ai dit oui tout de suite. Et effectivement, c'était un très beau spectacle qui a tourné autour de Paris et dans lequel je finissais pour danser les tangos avec ma camarade argentine. Mais c'était ça, mes années Cuba, et il aimerait, et je vais le... Oui, je commence par me dire, malgré mes 3 ans de plus,
sur ces maudits papiers. Pourquoi ? Parce que mon papa avait oublié de m'inscrire quand je suis né à Saint-Pierre-de-Cuba. Quand j'ai voulu faire l'entrée au lycée, il fallait avoir 13 ans, j'avais 12, quelque chose comme ça. Et il a envoyé son chauffeur à m'inscrire. Et de là, ça donnait que tous mes papiers sont faux parce que, au lieu d'être né à Santiago de Cuba, qui c'est une ville que j'aime beaucoup, je suis né à La Havane, c'est une ville que je n'aime pas tellement, être né le 19 mars au lieu du 19 juin, qui c'est mon véritable anniversaire bientôt, et puis surtout, au lieu de 3 mois, il m'a mis 3 ans de plus. C'est pour ça que je commence là à. Les textes en disant, malgré mes 3 ans de plus sur ces maudits papiers, je viens d'avoir 21 ans. Fasciné pour les folklore. Amen.
Merci. Remarque, question, c'est votre dernière chance. Toujours pas, ben merci d'être venu. Merci Eduardo, merci Michael, merci, il faut remercier la BPI, Florence. Passez une excellente soirée.